article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour la première émission de cette nouvelle année 2026. Puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement, on a souhaité à tout le monde les bons voeux pour la nouvelle année. Donc, on le fait aussi par rapport aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. En souhaitant une bien meilleure année 2026 pour la promotion et la défense des droits humains que celle qui vient de s'achever, qui a été assez compliquée. Mais bon, on ne perd ni notre énergie, ni notre espoir. Et ce soir, pour nous souhaiter la bonne année, autour du micro, il y a Edith.
Eh bien, bonne année à tout le monde. Effectivement, c'est un petit peu compliqué de dire bonne année, mais on est là. On va prendre ça mois par mois. Hein. Moi, j'ai vu un petit dessin rigolo qui disait « Ouais, allez ». Un mois par un mois, puis on verra la suite, et puis après on fera les 12 mois ensemble. Mais de toute manière, il faut être là, il faut être vigilant, et il faut partager et être dans l'humanité.
Et il y a aussi Claire-Lise.
Mais bonne année à tous. Ben moi, je vais reprendre juste la phrase que je vous ai dit le 30 décembre. Pour 2026, nous sommes tous assignés à résistance.
C'est ça. Donc, on commence l'année, pour ne rien vous cacher, avec des sujets, comme d'habitude, qui sont pas toujours faciles à évoquer à la radio, effectivement, qui sont des sujets parfois un peu durs, mais c'est l'actualité qui nous les dicte, et les campagnes d'Amnesty par rapport, encore une fois, aux droits humains. Mais moi, j'ai décidé, dans l'émission, donc je vais y revenir à deux ou trois reprises, de consacrer quand même des bonnes nouvelles. On en avait fait pas mal de bonnes nouvelles, la dernière émission, tout à fait à la fin de l'année dernière, avec Claire-Lise. Et là, il y a Amnesty International France qui a déjà publié un petit bilan des bonnes nouvelles de 2025 pour commémorer joyeusement cette nouvelle année. Et donc, j'ai décidé de vous en faire part. Donc, il n'y aura pas que des choses un peu dures à dire dans l'émission, mais il y en aura bien sûr. Donc, voilà. Et je crois que on va commencer pour les choses qui sont un peu compliquées. Et c'est Claire-Lise qui va vous en parler.
Je vais vous parler de la situation en Iran. Malheureusement, depuis quelques jours, l'Iran est le théâtre d'un nouveau cycle de répression sanglante. La violence des autorités à l'encontre des manifestations a causé des dizaines de morts et des centaines de blessés. Aux côtés de Human Rights Watch, nous appelons les autorités iraniennes à mettre fin immédiatement à ces nouvelles effusions de sang. Donc c'est depuis le 28 décembre 2025, donc l'Iran est marqué par cette nouvelle vague de manifestations. Et les autorités iraniennes sont de plus en plus violentes. Alors, on a peu de nouvelles qui arrivent d'Iran. Ce qu'on sait, c'est que maintenant, il y a quand même des centaines de morts et des milliers de blessés. Alors, des scènes de violence qui rappellent tristement la répression du mouvement Femme, Fille, Liberté, qui a secoué l'Iran depuis 2022. Et 3 ans plus tard, les Iraniens et Iraniennes qui osent exprimer leur colère face à des décennies de répression et réclamer des changements fondamentaux sont une nouvelle fois confrontés au schéma meurtrier des autorités. Alors on fait le point. Donc les manifestations, elles ont éclaté le 28 décembre 2025 à la suite d'un effondrement brutal de la monnaie dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique des services essentiels de l'État, notamment l'accès à l'eau et la détérioration des conditions de vie. Les manifestations donc ont débuté par des fermetures de magasins et des grèves au Grand Bazar de Téhéran. Elles se sont rapidement étendues à tout le pays. D'abord économique, les revendications ont rapidement évolué vers des appels à mettre fin à la République islamique d'Iran et à un changement systémique ainsi qu'au respect des droits humains, à la dignité et à la liberté. Majoritairement pacifiques, les manifestants ont été réprimés dans la violence à coups d'arrestations arbitraires massives, de disparitions forcées et de raids nocturnes dans les maisons. Certaines personnes arrêtées n'étaient encore que des enfants âgés d'à peine 14 ans. Alors, il y a eu beaucoup de violence contre les manifestants. Fusils à pompe chargés de projectiles en métal, canons à eau, gaz lacrymogène, passage à tabac, l'usage illégal de la force et de ses armes par les forces de sécurité iraniennes n'avait qu'un seul but, disperser, intimider, punir, tuer. Aux côtés de Human Rights Watch, les informations que nous avons recueillies attestent de la mort d'au moins 28 personnes, mais le bilan a beaucoup augmenté depuis, dans 13 villes des 8 provinces entre le 13 décembre 2025 et le 3 janvier 2026. Parmi les victimes, des manifestants et manifestantes, mais aussi des passants et des enfants. Tara Safari, 16 ans, était l'une d'elles. Les provinces de Lorestan et d'Ilam, où vivent les minorités ethniques kurdes et lors, ont été le théâtre de répressions les plus meurtrières, avec au moins 8 morts au Lorestan et 5 à Ilam. Les provinces de Shahal-Malal et de Bakhtiari, ainsi que Fars et Kermanshah, comptent au moins 4 morts chacune, ainsi qu'Ispahan, Hamadan et Qom, avec 1 mort chacune. Alors, scander des slogans « tue », tire à l'aveugle sur la foule, tuer pour avoir bloqué une route, par exemple. Les forces de sécurité iraniennes sont responsables de ces meurtres. Pourtant, les autorités ont nié toute responsabilité. Elles ont contraint les familles de certaines victimes à apparaître dans les médias d'État pour attribuer la responsabilité des décès à des accidents ou aux manifestants. Les autorités ont ainsi menacé les proches de représailles et d'enterrements secrets si elles ne se conformaient pas à leurs exigences. Les violences des autorités, l'utilisation généralisée de projectiles en métal tirés avec des fusils ont causé des centaines de blessés. Et notre enquête fait état de nombreuses blessures graves chez les manifestants, notamment à la tête et aux yeux. Les autorités ont traqué les manifestants jusque dans les hôpitaux et le 4 janvier 2026, la police iranienne et les forces du corps des gardes de la révolution islamique, le CGRI, ont attaqué l'hôpital Imam Khomeini à Ilam, où des manifestants blessés étaient soignés. Des agents ont tiré des projectiles en métal et des gaz lacrymogènes dans l'enceinte de l'hôpital, ont brisé les portes vitrées et ont frappé des patients, leurs proches et des membres du personnel médical. Et dans les hôpitaux, les autorités ont mené des arrestations. Leur présence a dissuadé de nombreux manifestants blessés à aller se faire soigner. Et nous condamnons fermement ces attaques qui sont illégales et contraires au droit international. Alors c'est une politique de zéro tolérance. Dès les premiers jours de manifestation, des hauts responsables de l'État ont diabolisé les participants, les qualifiant d'émeutiers et ont promis une répression ferme. Le 3 janvier 2026, alors que les forces de sécurité ont tué au moins 11 manifestants, le guide suprême Ali Khomeini a déclaré que les émeutiers devaient être remis à leur place. Le jour même, le corps provincial du CGRI de la province de Lorestan a déclaré que la période de tolérance était terminée, s'engageant à cibler les émeutiers, les organisateurs et les leaders des mouvements anti-sécurité et donc aucune clémence. Le 5 janvier, le chef du pouvoir judiciaire a également ordonné au procureur de ne montrer aucune indulgence envers les manifestants et d'accélérer leur procès. Les autorités ont par ailleurs diffusé les aveux obtenus sous la contrainte de détenus. Et le 5 janvier 2026, Tasmin News, affiliée au CGRI, a diffusé les aveux d'une femme de 18 ans et d'une jeune fille de 16 ans en les accusant d'avoir mené des émeutes. Alors, il y a eu aussi des coupures massives d'Internet.
Il y a toujours.
Oui, bien sûr. Et donc, cette coupure totale d'Internet ne fait pas que dissimuler les violations des droits humains. Elle constitue en soi une grave violation des droits humains, déclare Rebecca Wright, chercheuse au Security Lab d'Amnesty International. Alors, auparavant, les autorités iraniennes avaient déjà eu recours à ce type de méthode. En novembre 2019, les forces de sécurité avaient illégalement tué des centaines de manifestants et de passants au cours de 5 jours de manifestation, tandis que les autorités imposaient une coupure quasi totale d'Internet. Donc les autorités ont de nouveau imposé ces coupures d'Internet lors du soulèvement Femmes, Vie, Liberté de septembre à décembre 2022, alors que les forces de sécurité tuaient illégalement des centaines de manifestants et de passants. Donc c'est le règne de la violence et de l'impunité, surveiller, arrêter, torturer, violer, tuer. Telle est la stratégie des autorités depuis des années pour étouffer toute forme de contestation en Iran. les récentes violences contre les manifestantes, contre les manifestations n'ont rien d'inédit. Elles s'inscrivent dans un schéma alarmant de vagues de répression. Depuis juin 2025, les attaques israéliennes contre l'Iran ont servi de prétexte aux autorités iraniennes pour intensifier leur répression. Sous couvert de sécurité, les autorités ont multiplié les arrestations arbitraires, les procès expéditifs et les condamnations iniques. L'année dernière, le recours à la peine de mort a encore explosé, avec plus de 1300 personnes exécutées entre janvier et octobre seulement. Donc aujourd'hui, ce sont les mêmes schémas de violence qui sont utilisés et qui se reproduisent encore et encore. Et les minorités sont toujours plus ciblées et soumises à un cycle perpétuel d'hostilité et de violence. Donc nos demandes, aux côtés de Human Rights Watch, nous appelons les autorités iraniennes à cesser tout recours illégal à la force et aux armes à feu, cesser les arrestations arbitraires massives contre les manifestants, libérer immédiatement et sans condition toute personne détenue arbitrairement, garantir l'accès aux soins à toutes les personnes qui en ont besoin, protéger tous les détenus contre la torture et les autres mauvais traitements. Nous appelons par ailleurs les autorités judiciaires d'autres pays à ouvrir des enquêtes pénales en vertu du principe de compétence universelle. Voilà. Donc depuis de nombreuses années, nous documentons les graves violations des droits humains perpétrées en Iran. Mais en l'absence d'enquêtes pénales efficaces, impartiales et indépendantes, les autorités iraniennes continuent de bénéficier d'une impunité totale. Il est temps que l'impunité cesse.
Ben, voilà. On ne peut qu'aller effectivement dans le sens de ces recommandations qui sont effectivement, je dirais, frappées du coin du bon sens, même si les politiques qui sont aussi bien à la tête de l'Iran qu'au niveau international, ces genres de préoccupations ne les motivent pas beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire. On va rester dans la région puisqu'on va passer dans le pays qui est juste à côté de l'Iran, qui est l'Afghanistan, et c'est Edith qui doit vous parler des femmes afghanes, si j'ai bien compris.
Effectivement, oui, il y a une bonne nouvelle, on va dire, et puis il y a quelque chose d'un peu plus compliqué sur le sort des réfugiés afghans. Alors, je commence par la bonne nouvelle. Alors, grâce au plaidoyer de la Sport and Rights Alliance et d'Amnesty International, la FIFA a créé et financé une équipe de réfugiés, EES, afghanes, Afghan Women United. Depuis la dissolution de l'équipe féminine afghane en 2021, les joueuses avaient été contraintes de quitter leur pays par crainte de représailles. Aujourd'hui, elles disputent de nouveau des matchs internationaux, comme lors du tournoi organisé en octobre 2025 au Maroc contre le Tchad, la Tunisie et la Libye. Donc c'est une étape importante pour le droit des femmes à pratiquer le sport et représenter leur pays. Donc on fait waouh, super, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Elles sont parties de leur pays, elles sont réfugiées et pour l'instant tout se passe bien pour elles. Mais il y a aussi énormément d'Afghans qui sont renvoyés de façon forcée vers le régime taliban par les pays qui les avaient accueillis après 2021. Donc, on peut dire que c'est des Afghans qui ont été surtout en premier instant amenés en Iran, ils sont allés en Iran ou au Pakistan, et ces deux pays à eux seuls ont expulsé illégalement plus de 2,6 millions de personnes vers le pays, donc retour vers l'Afghanistan cette année, et environ 60% d'entre elles étaient des femmes et des enfants. Des milliers d'autres ont été expulsés depuis la Turquie et le Tadjikistan. Alors cette année, les États européens ont eux aussi redoublé d'efforts pour renvoyer de force les Afghans et les Afghanes. Les médias ont rapporté que l'Allemagne, l'Autriche et l'Union européenne mènent des négociations avec les autorités talibanes en vue de faciliter ces renvois forcés. Malgré la répression largement avérée des droits humains qu'exercent les talibans, de nombreux États réclament de renvoyer les Afghans dans un pays où les violations, en particulier contre les femmes, les filles, les voix dissidentes, sont généralisées et systématiques. Sans parler, en plus de la crise humanitaire qui s'aggrave, plus de 22 millions de personnes, soit près de la moitié de la population du pays, a besoin d'aide. C'est ce qu'a déclaré Smriti Singh, la directrice régionale pour l'Asie du Sud à Amnesty International. Alors, elle continue. Cet empressement à renvoyer de force des personnes en Afghanistan ne prend pas en compte les motifs qui les ont poussées à partir initialement, ni les graves dangers auxquels elles s'exposent en cas de retour. Il témoigne d'un mépris flagrant vis-à-vis des obligations internationales qui incombent à chaque État, à tous les États, et viole le principe contraignant de non-refoulement. Alors, Amnesty a réussi à avoir des témoignages menés à distance de personnes qui ont été contraintes de retourner en Afghanistan. Donc, je vais juste de deux personnes. Hein. C'est un article qui est paru sur Amnesty Belgique, mais il va être aussi sur le site français, je pense. Et donc, un témoignage chez Soukafa. Donc, effectivement, il y a pas mal de personnes qui sont parties d'Afghanistan parce qu'ils travaillaient avec l'ancien gouvernement ou avec des organisations internationales. Donc, effectivement, à l'arrivée du Taliban, il fallait absolument qu'elles partent. Donc, Soukafa, elle a fui en Iran début 2022 et a été renvoyée de force quelques mois après, son visa ayant expiré. Tout de suite après son retour, elle s'est enfuie au Pakistan où elle a réussi à obtenir l'asile auprès du haut-commissaire Il y a des Nations Unies pour les réfugiés, mais en juin 2025, la police a perquisitionné son domicile et elle a été de nouveau expulsée vers l'Afghanistan avec sa famille. Alors elle décrit la situation sous le régime taliban. Nous ne pouvons pas quitter librement notre maison, il n'y a pas de travail, les écoles des filles sont fermées. On peut, nous, en tant qu'anciens employés de l'ancien gouvernement, on ne peut pas se rendre auprès des talibans pour avoir de l'aide. On est complètement prisonniers et on est très, très inquiets. Car il y a, en plus, malgré les talibans qui ont dit on va faire une amnistie pour tous ceux qui ont été dans l'ancien gouvernement, mais il y a des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture, des détentions illégales. Et donc, c'est très, très, très compliqué pour ces gens-là qui ont été renvoyés de force. Alors, un autre exemple par rapport à une autre personne qui, elle, travaillait, était défenseur Sakina, défenseur des droits des femmes, qui a fui le Pakistan. A fui au Pakistan après l'arrivée au pouvoir des talibans en 2021, a été renvoyée de force en septembre 25, alors qu'elle était enregistrée auprès du haut commissaire aux réfugiés et inscrite à un programme américain de réinstallation à titre humanitaire. Alors, les talibans ont arrêté et battu à deux reprises des membres de la famille de Sakina pour obtenir des informations sur l'endroit où elle se trouvait. À son retour en Afghanistan, elle s'est installée dans une autre province avant de fuir à nouveau le pays. Elle témoigne. Je ne suis pas sortie de chez moi pendant que je me trouvais en Afghanistan. Les femmes ont peur des talibans. J'avais le sentiment que les gens avaient perdu tout espoir à cause de cette terreur. J'avais peur que les talibans me reconnaissent, mais aussi qu'ils m'arrêtent parce que je ne portais pas le hijab, a-t-elle confié à Amnesty. Donc absolument, il faut absolument, dit la directrice Amnesty Asie du Sud-Est, il faut que les États cessent immédiatement les renvois forcés et respectent le principe de non-refoulement. Et malheureusement, au niveau de l'Europe au moins, je sais qu'il y a eu des renvois. Je vois Claire Lise à côté qui...
Et puis au niveau du droit d'asile, des gens qui viennent d'Afghanistan et qui ont demandé asile en France, c'est très compliqué. On voit des dossiers complets de gens, par exemple un militaire qui... Il y avait toutes les preuves qu'il était dans l'ancien gouvernement. Voilà. Et qui est venu demander refuge en France, et sa demande d'asile a été rejetée par la CNDA. Enfin, alors que vraiment, c'était des dossiers vraiment complets. Enfin, on ne comprend pas la notion d'asile pour des gens qui fuient les talibans. Pourquoi elle n'est pas respectée? Et on avait mis le doigt à l'époque, quand il y avait eu, justement, quand il y avait eu la bascule et que les talibans avaient pris pouvoir, on avait mis le doigt justement sur le fait que la France était quand même très, très, très timide.
Oui. Sur l'accueil des femmes.
Sur l'accueil des, non seulement, enfin, des familles de gens, enfin, parce que les hommes, ils étaient dans l'armée ou ils avaient contribué à l'ancien pouvoir, mais leur famille, la France avait été vraiment très, très mitigés et ne voulaient pas les accueillir. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent après en difficulté en Afghanistan ou au Pakistan ou en Iran.
Alors,
Alors, parce que, il y en a qui sont allés
stratégiquement en Iran, ils ont eu droit à un moment, ils avaient un laissez-passer pour aller vers les études, vers tout ça, et l'Iran a arrêté en début 2025, a dit bon retour à tout le monde à partir du printemps. Donc c'est des situations pas possibles.
Et alors que l'Union européenne a publié une directive l'année dernière, si j'ai bonne mémoire, demandant à tous les pays membres de l'Union européenne d'accorder automatiquement le statut de réfugié à toutes les femmes qui viennent d'Afghanistan. Mais ça n'empêche pas les États membres de tout faire, dont la France, de tout faire pour ne pas respecter cette directive. Voilà.
Et le Pakistan, bon, en plus, c'est des pays où il y a des conflits tout de suite. Et donc, effectivement, il y a aussi une façon de se dire, ceux-là, on les renvoie chez eux, quoi, sans aucun regard sur la problématique, pourquoi ils sont arrivés et pourquoi ils ont été obligés de fuir l'Afghanistan. Et puis, moi, ça me rappelle aussi un peu ce qu'on a... Parce qu'on a, on en a parlé aussi l'autre fois, quelques émissions, ceux qui nous suivent attentivement, sur ce que disent les femmes afghanes. C'est-à-dire que là, on est en train de faire des deals, hein, ça ressemble un peu à notre ami Trump, avec les talibans.
Tes amis ne sont pas mes amis.
Mais non, moi non plus, je fais ça de façon ironique. Et si on, ça veut dire reconnaître les talibans en tant qu'organisme avec lequel on peut parler. Et les femmes, elles disent non. Nous, on veut qu'on reste, ça soit pour qu'on puisse préserver un peu notre identité. À nous, il ne faut pas aller du tout faire des deals avec ces gens-là et les considérer comme eux aussi des terroristes.
Bah, c'est clair. Donc,
c'est alors,
avant la première pause musicale qui ne devrait pas tarder, il y a quelques bonnes nouvelles, comme je vous disais, effectivement, qui ont été listées par Amnesty International en ce début d'année, qui date de l'année dernière, mais pour redonner un peu le moral à tout le monde, malgré les temps compliqués. Donc voilà, justement, on va rester un peu dans le même sujet parce que le premier paragraphe traite du droit des femmes et du droit des personnes LGBT. Alors, parmi les bonnes nouvelles, la France a adopté un texte intégrant le non-consentement dans la définition pénale du viol, une première étape essentielle pour mieux combattre les violences sexistes et sexuelles. Le Parlement français a également adopté une loi réhabilitant les femmes condamnées pour avortement avant sa légalisation en 1975. Enfin, l'Assemblée nationale a adapté une proposition de loi pour reconnaître et réparer les préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982. Et oui, on oublie...
Bien vaut tard que jamais.
On oublie que la France, au niveau de sa législation, condamnait l'homosexualité jusqu'en 1982. C'est pas si vieux. En Europe, le droit à l'avortement progresse. Le 17 décembre, le Parlement européen a adopté un texte pour faciliter l'accès à l'avortement, à des avortements sûrs pour toutes les femmes dans l'Union européenne. Cette décision a été adoptée grâce au dépôt d'une pétition de plus d'un million de signataires au Parlement européen. En Pologne, pour la première fois, un centre d'avortement a ouvert. Ce centre est notamment l'œuvre de la militante Justinia Wydrzyńska, que notre mouvement a ardemment défendu lors de sa condamnation pour la défense du droit d'avorter dans son pays et qui reste, la Pologne, qui reste l'un des pays les plus restrictifs d'Europe. Enfin, et je m'arrêterai là avant la pause musicale, on va changer de continent. Au Burkina Faso, le pays a adopté une loi qui fixe l'âge minimum pour se marier à 18 ans, pour les garçons comme pour les filles, établissant le consentement comme la base du mariage. Voilà, quelques bonnes nouvelles quand même, qui font toujours du bien. Donc, une petite chanson, vous allez comprendre tout de suite pourquoi on vous la passe, on se retrouve juste après.
Je te souhaite des mains heureuses, des mélodies curieuses, des caresses dans les creux et du bonheur contagieux. Je te souhaite des erreurs de parcours, des chemins de traverse. Je te souhaite des milliers de détours, des qui tombent et qui renversent. Je te souhaite un phare pour ton bateau, le soupir du repos, le langage des couleurs, le rose qui monte aux joues, le noir de l'humour fou, le bleu des petites peurs. Aux cœurs enrhumés, à vos souhaits, je te souhaite la naïveté des gosses, des ivresses de manège, le bruit des vagues, le silence de la neige. Je te souhaite des chansons qui te ressemblent, avec des mots tendres et percutants, des révoltes, la promesse du printemps. Je te souhaite des terrasses de café, la sortie du tunnel, le ciel de la marelle, des cascades de rires partagés et leur plaisir qui nous rappelle aux cœurs enrhumés, à vos souhaits. Je te souhaite des échos, des rebonds, des cimes et des sommets, des beautés infatigables. Je te souhaite des pays inventés. Je te souhaite des horizons, des folies pleines de douceur, des révolutions intérieures, des chapeaux bas, des hauts les cœurs. Oh les cœurs enrhumés, à vos souhaits. Oh les cœurs enrhumés, à vos souhaits. Oh les cœurs enrhumés, à vos souhaits.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour la suite de son émission. Bah oui, cette chanson, effectivement, vous avez deviné, c'est une très jolie chanson de Ben Herbert Larue, et qui est tout à fait adaptée pour ce début d'année, puisque ça s'appelle « À vos souhaits », donc c'est une liste de souhaits très poétique pour la nouvelle année. Voilà. On va vous passer à un autre enregistrement qui est très court, celui-là, et ça fait suite à ce qui vient de se passer aux États-Unis, c'est-à-dire le meurtre par des forces de police de l'immigration
d'une citoyenne. Ça fait très froid dans le dos.
D'une citoyenne américaine à Minneapolis. Donc on vous passe tout de suite l'enregistrement qui a été fait par Amnesty Belgique.
Une femme a été abattue par des agents fédéraux ICE à Minneapolis. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une bavure, c'est le résultat direct d'une politique de violence d'État. Nous condamnons avec la plus grande fermeté la fusillade et le meurtre d'une femme à Minneapolis par un agent fédéral lors d'une opération de contrôle migratoire. L'administration Trump a une nouvelle fois ôté la vie à une personne par un recours inutile à la force létale. Une violence directement alimentée par son agenda cruel et anti-immigré, tout en mentant une fois encore de manière flagrante sur les circonstances des faits. La présence de plus en plus massive de l'ICE, combinée aux répressions militarisées des manifestations observées ces derniers mois, ont rendu les communautés américaines plus dangereuses au détriment de toutes et tous. Ce meurtre, comme l'ensemble des décès survenus sous la responsabilité de l'ICE, doit faire l'objet d'enquêtes approfondies et les personnes responsables de ces abus doivent être tenues pour comptables de leurs actes. Plus largement, les attaques menées contre les communautés états-uniennes par l'administration Trump doivent cesser immédiatement.
Voilà, c'était un commentaire...
Un petit réel, hein. C'est pour ça, ça va avec un...
Mener un peu au pas de charge.
Voilà, on a l'impression qu'il parle vite.
D'habitude, ils parlent moins vite, les Belges.
Oui, c'est ça. Et donc, mais juste un petit commentaire, et puis après, c'est Edith qui va reprendre la parole, mais juste un petit commentaire par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Et oui, quand il y a des dérives autoritaires dans les pays, ça, les gens, ils devraient y penser par rapport aux prochaines élections, tous les gens qui votent en France. Quand il y a des dérives autoritaires dans les pays, un jour ou l'autre, les forces de police qui sont censées faire respecter la loi et protéger les citoyens, eh ben au moins certaines d'entre eux deviennent des meurtriers. C'est ce qui vient de se passer aux États-Unis.
Et on peut rajouter que, effectivement, là, les démocrates ont l'air d'essayer de récupérer ce fait horrible pour vraiment se mettre ensemble et faire quelque chose. Et les juges, quand on arrivait là à l'émission de radio, on écoutait sur France Culture, et les juges considèrent que, effectivement, c'est les citoyens qui sont en tort, parce qu'ils se sont mis ensemble, parce qu'effectivement il y a des mouvements citoyens pour pour bloquer quand les personnes qui appartiennent à cette je sais pas comment
cette
on peut appeler ça,
cette police migratoire,
voilà, c'est la police migratoire. Ah, c'est la police, en plus on sait que ces personnes là ont été recrutées à la va-vite, en paquet, enfin bon, on sait pas du tout qui est là-bas, et donc en fin de compte ça va être le pauvre citoyen qui a crié ou qui a pris la photo qui va être coupable. Donc ça rappelle vraiment beaucoup de pays qu'on dénonce depuis des années, et là c'est les États-Unis.
C'est clair. Donc comme tu as la parole, vas-y Edith.
Je vais reprendre, mais là je vais traverser de l'autre côté, un pays aussi un peu compliqué, on va dire la Chine. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis pas mal d'années, en 2020, Zhang Song, elle faisait partie des personnes en faveur desquelles Amnesty demandait à se mobiliser dans le cadre des 10 jours pour signer, c'est-à-dire changer leur histoire, comme on a fait là tout de suite. Et cette personne-là, je vais vous raconter où elle en est maintenant. Donc, c'est un article de Pierre Aski qui est paru dans la chronique de ce mois-ci. Donc, il a intitulé